France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
La dette, c'est comment la résorber, une retraite, les subventions économiques, les taxes pour les plus riches, la taxe Zuckerman, la part de l'énergie renouvelable, le coût des politiques sur le climat, les géants de la tech et nous, la fonction publique, le prix du train, le télétravail, les patrons, les salariés, les droits de douane, y a-t-il plus quotidien, plus proche de nous que les sujets de l'économie, notre argent, nos vies après le travail, le chauffage de nos maisons, nos voitures, nos impôts, nos vacances, et tous les sujets sont d'abord ou à un moment des sujets éco, c'est peut-être bien le paradoxe d'ailleurs, parce qu'on dit peut-être un peu vite, je sais pas, on demandera à nos invités qu'on est assez nul en éco en France, alors qu'en fait, on en parle tout le temps, 67 millions d'économistes qui s'ignorent, 67 millions de Monsieur Jourdain, on a peut-être séché les cours d'éco de terminale, mais on a tous un avis sur la taxe Zuckerman. Et sur le budget, bien sûr, qui passe donc au 49.3, c'est l'actualité du jour, un budget qui ressemble à quoi? Un budget qui nous disqualifie aux yeux de nos voisins, qui fait la part belle à qui? On y viendra si vous le souhaitez. Quand on parle d'économie, y a-t-il d'ailleurs quand même un socle commun, une sorte de base, peut-être des chiffres, je ne sais pas, sur lesquels nous sommes tous d'accord, quelques notions universelles, ou peut-être même des agacements universels et communs. Est-ce que les droits de douane de Trump, par exemple, sont un agacement commun sur lequel il n'y a pas de sujet de débat? Et nous le demanderons également à nos invités qui débattent de l'écho, donc tous les vendredis sur France Inter. On est heureux de les avoir avec nous ce soir. Dominique Seux et Thomas Porcher sont vos invités ce soir, les amis. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Si Magali, c'est vous la première et vous êtes la bienvenue, Magali, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je souhaitais poser la question de la croissance et de savoir en fait si elle était absolument nécessaire au fonctionnement économique. Parce que je vois malgré le fait que je vois bien qu'il y a une répartition, etc., je vois tout de même les inégalités croître et croître les fortunes des plus riches. Et je me demande justement que se passerait-il sans croissance.
Merci beaucoup Magali pour cette entrée en matière. On va essayer à chaque question de ne pas refaire le débat de l'écho du vendredi, parce que sinon on n'est pas sorti des ronces. Mais quand même, messieurs, d'abord je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Je vous représente quand même, même si les auditeurs vous connaissent. Thomas Porcher, vous êtes professeur à la Paris School of Business. Vous êtes membre des économistes atterrés. Dominique Seux, vous êtes éditorialiste aux Échos et aussi sur France Inter. C'est le matin à 7h45 et des poussières. Et vous êtes tous les deux le vendredi à 7h45 et des poussières aussi, dans la matinale du vendredi avec Ali Badou et Marion Lourd. Et le livre qui sort des débats de l'écho s'appelle Les débats de l'écho, publié chez Plon et France Inter. On est content donc de vous avoir. Alors la croissance est-elle nécessaire et surtout pour qui? Bonsoir, bonsoir à tous les deux. La question de Magali, c'est elle est nécessaire, d'accord, nécessaire pour qui?
Moi, je pense qu'elle est nécessaire pour tout le monde. Et là, je pense qu'on va être assez d'accord. L'économie, c'est d'abord un gâteau. Et il faut que ce gâteau soit le plus gros possible. Et ensuite, c'est comment on répartit ce gâteau. Ça, c'est la deuxième question. Alors, effectivement, il y a des secteurs qui doivent décroître. Les énergies fossiles doivent décroître à un moment. Et il y a d'autres secteurs qui doivent croître. Les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, ce sont des secteurs qui doivent croître. Donc, la question de la croissance est quand même une question qui est nécessaire. Sans croissance, ça va être difficile.
Pourquoi est-ce que Magali a le sentiment que la croissance s'est fait que pour les plus riches, en fait, Dominique Seux, à votre avis? Je parlais tout à l'heure de notre regard peut-être approximatif sur l'écho, en fait, nous qui sommes les observateurs. Est-ce que ça fait partie de ça aussi? Pourquoi on croit que c'est que pour les riches, la croissance?
La croissance, c'est quand même ce qui améliore notre niveau de vie depuis plusieurs millénaires. C'est ce qui aussi finance les services publics, la protection sociale. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle est bien répartie. Mais ça n'est pas la première question. La première question, c'est y a-t-il de la croissance? Parce qu'on ne peut pas redistribuer ce qu'on ne produit pas. Bon. Est-ce que les inégalités se sont accrues? Les inégalités de revenus dans un pays comme la France ont tendance à rester globalement stables. Les inégalités de patrimoine, elles, ont augmenté sans aucun doute. La question de Magali, c'est aussi, qui est évidemment la question fondamentale en économie sur la croissance, c'est au fond, est-ce que la croissance est un bon indicateur de notre bonheur, de notre mode de vie? Alors oui, pour l'essentiel, mais non. Et on s'en aperçoit, par exemple, la pollution ou les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas c'est un dégât ou un effet collatéral de la croissance. Et donc, c'est pour ça que le produit intérieur brut, dont on parle beaucoup, la croissance, n'est pas le seul indicateur à avoir en tête.
Pardon, allez-y, Thomas Pocher, après j'aurai une question pour vous deux.
Après, c'est vrai que quand on regarde les courbes de long terme sur la croissance, l'impact que ça a sur les ressources naturelles, les matières premières, j'arrive à comprendre que sur des questions de long terme, les gens se disent, est-ce que tout ça pourra tenir ? Voilà, avec la contrainte climatique, et ça, c'est des questions légitimes. Mais il est vrai, et là, Dominique a eu raison de le rappeler, qu'il n'y a pas d'enrichissement sans croissance. Hein. Il n'y a pas d'augmentation du niveau de vie sans croissance. Mais, je dirais juste une chose sur les inégalités, elles ont augmenté moins vite que dans d'autres pays, mais elles ont quand même augmenté chez nous.
Hein. Le long terme, on y reviendra, parce que c'est peut-être ça aussi la grande difficulté. On déteste le long terme, mais tout le monde déteste le long terme d'ailleurs, parce qu'on voudrait que les choses se fassent très vite. Je ne sais pas si c'est très compatible avec une politique économique, on y reviendra, mais il y a une chose qui m'a frappée dans ce que vous dites, Thomas Porcher, vous parlez du gâteau, en fait, au démarrage. Je posais la question en introduction, est-ce que justement on a un gâteau commun, on part tous sur les mêmes bases en fait dès lors qu'on parle d'économie, y compris vous deux d'ailleurs, il y a un vrai socle commun avec des choses qui sont immuables et c'est ensuite qu'on se défait. Alors, ou est-ce que comme au fond on le voit dans la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est ce socle commun y compris de connaissances qui est en train de devenir gazeux, est-ce que c'est vrai aussi en économie par exemple, le chiffre de la croissance, est-ce que tout le monde est d'accord sur le chiffre ou même
oui,
pas en fait.
On est d'accord sur les chiffres, sur les données, nous sommes d'accord.
Alors on est moins d'accord maintenant aux États-Unis parce que Donald Trump truande avec les statistiques. Bon, mais voilà. Mais à part ça, chacun a son approche des chiffres. Thomas est économiste, je ne suis pas économiste. Je suis journaliste économique. Je ne prétends pas me mettre au-dessus de ma condition. Mais une fois qu'on a dit ça, prenons un chiffre dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, la natalité.
Bon, chiffre de natalité. D'accord sur le chiffre.
Alors, on va être d'accord sur le chiffre, le nombre de naissances, le taux de fécondité, etc. Mais après, on peut avoir deux analyses, et nous avons deux analyses complètement différentes sur ce que ça veut dire. Donc, nous sommes d'accord, il y a une base commune. Après, il y a la façon de la lire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et nous avons une différence là-dessus, c'est, moi, je considère que la microéconomie, les entreprises, sont plus importantes que la politique économique. Je pense que ce qui fait la croissance, l'activité économique, nos revenus, ce sont d'abord les salariés et les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Thomas pense, mais il va le confirmer ou pas, que c'est d'abord la politique économique, budgétaire, fiscale qui fait l'économie. Moi, je suis un peu réticent devant la vision, allez, je vais te dire de manière simple, devant la vision hydraulique de l'économie. La vision hydraulique de l'économie, c'est je mets un petit peu de déficit public, il en sort de la croissance. Je baisse ou je monte les impôts, il se passe quelque chose. Je crois que c'est plus compliqué, c'est l'innovation. C'est l'appétit de chacun pour travailler plus, travailler moins. Télétravailler, est-ce que c'est bon pour la productivité ou mauvais ? C'est mille choses plus compliquées.
Oui, c'est...
Sinon, ce serait tellement simple.
Non, c'est
sinon, il n'y aurait même pas de débat le vendredi.
Donc, micro ou macro ?
Non, mais ce débat micro-macro, il existe chez tous les économistes, il traverse. Donc, c'est un débat vraiment classique que l'on a entre moi et Dominique. Mais il est vrai, par exemple, sur l'innovation, que l'innovation dépend aussi de politique économique. On l'a bien vu dans les innovations majeures que sont Internet, le GPS, ce genre de choses. Il y a toujours eu quand même l'État qui a investi en amont de la chaîne d'innovation et qui a mis de l'argent et qui a permis ces innovations, y compris chez nous. La SNCF, le Concorde sont des innovations où l'État était quand même très présent. Et donc, la politique économique a également un impact. La macro a également un impact sur l'innovation. Donc voilà, bon. Après, sur les faits, les statistiques, en général, c'est des statistiques de l'INSEE sourcées que l'on prend, on est toujours d'accord. Là-dessus, sur le point de départ, il a raison de dire que nous sommes d'accord, mais après, sur ce que l'on doit faire, on peut avoir des accords.
Alors vous, je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes d'accord effectivement sur ce socle commun. Je me demandais si vous aviez le sentiment, justement, que même dans votre matière qu'est l'économie, ce socle commun est en train de devenir gazeux et liquide dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on remet en cause, effectivement, les chiffres d'emblée, où on remet en cause, y compris un fait économique d'emblée. Est-ce que ça aussi, ça devient gazeux ou pas ?
Alors, vous avez complètement raison. Ce qui est très frappant, mais c'est dans l'information en général, et on est bien placé ici pour le savoir, c'est que nous avons chacun à disposition, allez, 10, 100 fois, 1000 fois plus d'informations, de données qu'il y a simplement 15 ans, qui sont accessibles à tout un chacun. Et au lieu que ça fabrique du consensus, ça a fabriqué du dissensus. Ça a fabriqué des lectures radicalement différentes, sans parler du complotisme sur les chiffres ne sont pas bons et des théories
etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de remettre un petit peu, moi je trouve, dans un débat de la raison, c'est ce qu'on a fait dans le livre, c'est ce qu'on fait le vendredi matin, de montrer qu'il peut y avoir des débats sans qu'il y ait forcément des propositions qui soient complètement en dehors du cadre et qui soient plus sérieuses.
Voici Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Michel, on vous écoute.
Oui, ben écoutez, pour commencer, j'ai beaucoup de respect pour vos deux économistes qui sont présents, je les écoute souvent, hein, monsieur Borchet. Bon, ils sont toujours d'accord en général sur le constat, mais ils sont souvent toujours en opposition sur la façon de le régler. Mmh. Alors, une question, imaginons qu'ils soient tous les deux chargés de faire le budget de la France, quel compromis ils trouveraient pour les dépenses et pour les recettes? Où est-ce qu'ils en trouveraient, hein?
J'adore cette question. Vous avez une minute chacun pour nous refaire le budget de la France.
Alors, sachant qu'en six mois, Dominique ils ne Solence. Sont pas arrivés voilà. à faire un compromis, on va avoir du mal, mais je vous promets qu'on pourrait essayer, effectivement. On aurait des approches. Si nous devions faire un budget, on aurait des approches forcément différentes.
Alors, sans aller jusqu'à vous demander de faire le budget, celui-là qui vient d'être signé, non, qui va passer donc au 49-3, vous le qualifiez comment, par exemple, Dominique, si on joue à ce petit jeu-là, vous le qualifieriez de... je veux un mot.
C'est un budget politique.
Ok.
C'est un budget politique qui laisse un peu l'économie de côté. Mmh. Voilà. Oui. C'est un budget politique et, de fait, Sébastien Lecornu a réussi, Lecornu est en train de réussir, on verra demain les motions de censure.
Mais via un
49-3, il réussit à présenter une copie, mais c'est l'addition des revendications des uns et des autres. Le seul problème, c'est qu'il y a deux victimes dans cette addition des revendications des uns et des autres. La première victime, c'est quand même un déficit public qui est absolument considérable, puisque en 2024, 2025, 2026 et très probablement 2027, nous aurons un déficit public de l'ordre... Allez, on ne va pas le dire en pourcentage du PIB, parce que, en fait, ça ne veut rien dire. Mais un déficit public compris entre 150 et 170 milliards d'euros. Et on n'a jamais vu ça depuis 70 ans.
J'ai l'impression qu'on est vendredi, donc je suis presque en week-end. Parce que c'est évidemment là-dessus que vous vous accrochez le plus souvent.
Non, pas du tout. Le sujet sur lequel on s'accroche le plus souvent sont les retraites.
C'est les retraites, mais ça fait partie du budget.
Mais là, c'est vraiment... c'est très grave, c'est moyen grave, fois.
Nous verrons, là. C'est moyen grave. En fait, le budget, effectivement, ne traduit pas, et là, je suis d'accord avec Dominique, c'est un budget politique. Il ne traduit pas de... On ne sent pas de... C'est un budget Frankenstein. Il a été fait pour satisfaire tout le monde et pour passer. Donc ça, on est d'accord sur le constat. Mm-hmm. Après, sur la gravité de ce déficit que moi, je préfère mettre en pourcentage de PIB de 5%, je pense qu'on va arriver en 2027 tant bien que mal comme ça. Il ne va pas y avoir de grosses crises. Les taux d'intérêt ne vont pas... Il ne va pas y avoir tout ce qu'on nous a dit, le scénario catastrophe à la grecque. Et puis, 2027 va être une année où on va trancher sur un programme économique à l'élection présidentielle.
Alors ça va être passionnant. On ira dans un instant pour voir un petit peu effectivement sur quel sujet la présidentielle ira. Avant qu'on écoute Marie, c'est une sorte de préambule à la question de Marie. Vous avez dit tout à l'heure, Dominique, que en un mot, ce budget était politique. Mais moi, ma question, c'est mais est-ce qu'un budget n'est pas toujours, de toute façon, éminemment politique? Est-ce que c'est pas le truc le plus politique qui soit pour un gouvernement, le budget, en fait? Parce que ce sont des choix. Donc un choix est forcément politique.
Oui, mais il ne traduit rien d'une politique économique. Il est politique voilà. dans le sens où il faut que les partis soient d'accord.
Politique en termes de compromis, en fait, voilà, dans la situation dans laquelle est la nôtre aujourd'hui.
Pas de politique économique. Là, me dire, bon, il y a quand même un peu plus de... C'est un budget quand même qui fait un peu plus d'économie que le précédent.
Ça veut dire qu'on ne sait pas dire si c'est un budget de droite ou de gauche, en fait. C'est ça que vous voulez dire, Thomas Porcher, ou pas?
Centre-droit, je
dirais. En fait, si on veut être très dur, si je veux être très dur sur cette copie...
Il dit centre-droit, Dominique.
Non, je dis... Non, centre-gauche et probablement à gauche, mais...
Oh non,
je crains, attendez, vous avez quand même des mesures, vous avez une taxation des très grandes entreprises qui sont prises en deux ans 16 milliards d'impôts en plus, c'est pas complètement rien, et vous avez des mesures qui sont estampillées plutôt à gauche, c'est les repas gratuits pour tous les étudiants et une hausse de la prime d'activité. Et une suspension de la réforme des retraites, je vois pas très bien ce que vous...
Oui, mais un certain nombre d'économies sur des ministères et l'enveloppe globale reste une enveloppe d'économie. Disons-le quand même, c'est pas.
Oui, sauf que vous ne pouvez pas me citer une seule économie concrète, tandis que moi je peux vous citer des mesures fiscales concrètes ou des dépenses supplémentaires concrètes. Donc, ce qui est terrible sur ce budget, c'est qu'il fait effectivement l'impasse sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout la réaction des grandes entreprises avec ces hausses d'impôts, sur les surtaxes. Tout le monde peut se dire, et je suis certain qu'une partie de nos auditeurs se disent en ce moment, non mais le CAC 40, ça va, ils ont plein de fric, tout va bien. En réalité, leurs décisions vont être très simples.
Je vérifie si vous êtes en train de recevoir des messages en disant ça.
Je prends le pari. La réaction des grandes entreprises, ça va être... Mais on la saura à peine. on n'investit pas en France l'année prochaine et l'année suivante. Et c'est grandes entreprises. Et c'est d'autant plus dur pour les grandes entreprises, je pense à des grandes banques mutualistes, par exemple, qui font l'essentiel de leur activité en France.
Sachant que tout va changer, si je puis dire, ou en tout cas, tout est remis dans le shaker en 2027 avec les élections à venir. Et ça dit ça aussi, ce budget. Non, ça dit avançons avec le moins de dommages possible jusqu'en 2027 et puis après on verra, non ?
C'est exactement. Il fallait rendre une copie pour nos partenaires européens parce que, après, encore une fois, les marchés financiers, tout le monde nous refinance très facilement. C'était plutôt pour montrer à nos partenaires européens qu'on a une forme de crédibilité. Donc, il y a une trajectoire de réduction très faible, mais quand même de réduction du déficit. Donc, il y a des économies. Et puis, voilà, on arrivera en 2027. C'est après 2027 que, là, il va falloir trancher des choses, quoi.
Et rentrer dans le dur, comme le dit l'un de nos auditeurs. On verra ça dans un instant. Marie nous attend depuis longtemps. Pardon, Marie. Et soyez la bienvenue.
Bonsoir. Tout d'abord, Dominique, je vous remercie pour vos chroniques matinales. Je vous écoute chaque matin et chaque vendredi pour le débat éco. Donc, merci à vous deux pour vos lumières.
Merci à vous. Merci.
Ma question, elle est simple. Je m'interroge sur les réelles marges de manœuvre de l'État sur sa politique économique. Ainsi, et selon vous, qui gouverne réellement l'économie française ? L'État, l'Union européenne ou les marchés financiers ?
Merci Marie, elle est jolie la question.
Thomas Porchet. Très jolie.
Ouais. Ouais, moi je... les marges de manœuvre, alors effectivement, on en a moins que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, où il y avait un peu plus de 3% de déficit. Mais le vrai problème du déficit, c'est pas... Les États-Unis ont plus de 7% de déficit, ils n'ont pas l'air de s'en soucier beaucoup. Vous voyez, nous, on a 5%. Le problème de ces 5% de déficit, c'est qu'en grosse partie, ce déficit a permis de financer des gens qui n'en avaient pas besoin, par des grandes entreprises ou parfois des gens très riches. C'est ça le problème. C'est pas tant le déficit que ce qu'il finance. Si l'État est en déficit, c'est que quelqu'un est en excédent monétaire ailleurs. Et là, une grosse partie des gens qui sont en excédent monétaire sont parfois les plus riches avec la réforme de l'ISF ou un certain nombre d'entreprises avec la flat tax, etc. et qui n'en avaient pas besoin. C'est ça le vrai fond de l'histoire. Ensuite, est-ce la faute de l'État, de l'Union européenne
ou
des marchés financiers? Moi, je dirais un peu des trois. Parce que l'Union européenne, nous devons être crédibles devant nos partenaires alors que finalement tout va bien. Les marchés financiers, c'est quand même toujours agité pour ne pas pouvoir faire des réformes parfois qui pourraient profiter notamment aux services publics. Et c'est aussi un peu de la faute de l'État parce que c'est l'État qui établit la politique économique qui nous a amené à ce que nous vivons aujourd'hui en partie.
Alors Dominique, je vais répondre à Marie, que je remercie pour cette excellente question. Ce ne sont pas les marchés financiers puisqu'ils nous prêtent beaucoup, même si c'est un peu plus cher chaque jour.
Il y a les pédamoclès.
C'est pas l'Union européenne puisqu'on viole à peu près tous les traités depuis une bonne vingtaine d'années. Ce ne sont pas les politiques, c'est en fait une seule chose, c'est la crainte qu'ont les politiques de l'opinion publique. Voilà ce qui fait la politique économique en France, parce qu'il y a un manque de leadership, il y a un manque d'idées. Il est quand même paradoxal que nous soyons dans le pays où les dépenses publiques sont les plus élevées des pays développés, les impôts sont les plus élevés des pays développés, il y a de l'insatisfaction. Ça prouve vraiment que nos responsables politiques ne savent pas s'adresser à l'opinion publique pour leur dire « voilà les choix que nous devons faire ».
Alors, il y a une très bonne chronique dans le livre où on parle des services publics. Et en fait, une grande étude qui avait été faite montrait que les gens n'étaient pas si insatisfaits que ça. On en parle bien, on en a souvent ce débat. Mais oui, effectivement, on a la dépense publique la plus élevée du monde. Là, je suis d'accord avec Dominique.
C'est pour ça que je disais que c'était éminemment politique, parce que vous avez raison, Dominique. Si quelqu'un, un politique aujourd'hui, arrive en disant « voilà les choix que nous devrons faire », c'est un peu ce qu'avait essayé à certains égards François Bayrou à un moment, à la fin de son tour, si j'ose dire, de Premier ministre. Politiquement, c'est totalement casse-gueule. C'est en ça que l'économie n'est que politique, en fait. Non, vous ne croyez pas ?
Oui, parce que ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'avec l'euro, nous avons hérité d'un bouclier formidable, qui est celui, en fait, de la mutualisation des dettes et sous le parapluie, quand même, de l'Allemagne. Et donc, chaque pays à partir de l'euro, on a profité un peu pour céder à ses facilités naturelles. Alors ça a commencé avec la Grèce, la France a fait à peu près la même chose en commençant par les 35 heures. Et je n'ai rien contre la réduction du temps de travail, mais la réduction du travail généralisée sans baisse de salaire a été une catastrophe pour l'industrie notamment. Et donc chaque pays a cédé. L'Allemagne en a profité pourquoi ? Pour renforcer son industrie. Aujourd'hui, elle ne va pas très bien.
C'est ce que j'allais vous dire.
Elle va pas très bien.
Oui, mais enfin, ils ont eu 25 années où ils ont exporté comme des malades. Donc en fait, nous n'avons pas de force de rappel. La grande question, c'est de savoir s'il faut souhaiter que nous ayons des forces de rappel. Alors, loin de moi l'idée de dire il faudrait une bonne crise financière pour remettre les Français d'équerre. Pas du tout. Mais je constate néanmoins qu'il y a une sorte de laisser-aller général sur les finances publiques. Mais encore une fois, attendez, les finances publiques et la politique économique ne sont pas...
Il y a au moins trois sujets où on débat là-dessus dans le livre, assez intéressant.
Ne sont pas l'alpha et l'oméga de toute l'économie. La politique est tellement importante dans notre pays que nous ne parlons que de ça.
Alors,
je vous donne un exemple.
Allez-y,
phrase.
Je vous en prie.
Moi, je me souviens de quelque chose d'assez extraordinaire. Vous savez, quand on a parlé de la taxe Zucman, un soir est apparu au journal de Léa Salamé sur France 2, le patron de Mistral. La première question qui lui était posée, c'était normal, c'est qu'est-ce que vous pensez de la taxe Zucman ? Mais aucun Français ne connaissait le patron de Mistral. Mmh. C'est quand même dommage que cette start-up magnifique qui essaye de rivaliser les grands langages d'intelligence artificielle apparaisse aux yeux du grand public à un débat sur la fiscalité et non pas pour ce qu'elle faisait.
On va la poursuivre, on va rester dans cette conversation, Thomas Porchet, ne vous inquiétez pas, mais Lucas va nous aider. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci de me prendre à l'antenne. Je suis un petit peu perdu, j'ai écouté le fil de la conversation. On nous parle de l'économie comme quelque chose d'indépassable, d'inflation, de dette, comme si ces règles étaient des reins et que rien ne pouvait être fait. Mais je voulais simplement rappeler que l'économie en tant que telle n'existe pas. Elle n'est que la traduction de rapports de force, internationaux entre les grandes puissances qui peuvent émettre de la monnaie, émettre de la dette et des pays dominés, de rapports de force intérieurs entre employeurs et employés. Et que dans toutes ces théorèmes, tous ces axiomes très compliqués, on oublie souvent la valeur d'utilité, croissance, certes, mais utilité sociale. À quel moment l'économie est-elle reliée à l'utilité sociale ? C'est une réflexion, ce qui fait que dès qu'on s'éloigne un petit, dès qu'on propose un autre modèle économique, un autre modèle de répartition de la valeur, un autre modèle de rétribuer l'utilité, on est disqualifié parce qu'on est des fous, on ne sait pas de quoi on parle, on est des amateurs.
Et des utopistes, j'entends ce que vous entendez, si je puis dire. Lucas, on comprend où vous nous emmenez. Quelle réponse on peut donner à Lucas, Thomas Porchet ?
Il a raison sur beaucoup de points. C'est-à-dire qu'il y a des rapports de force dans l'économie, il y a des rapports entre pays du Nord et du Sud, il y en a eu. Il y a eu même des pays qui ont été colonisés. Il y a des rapports de force aussi à l'intérieur des sociétés. En fait, quand vous faites une réforme en économie, il faut toujours se poser la question à qui cela profite. Si vous bloquez les loyers, les locataires sont contents, mais les propriétaires sont fâchés. Donc oui, il y a toujours ce rapport de force. Mais je vais vous donner un exemple très simple. Parce qu'on a parlé des choix politiques qui ont un impact sur l'économie. Quand vous retirez 4 milliards d'impôts aux 1% les plus riches via la réforme de l'impôt sur la fortune. Bon, vous faites un choix de baisser les impôts à des gens qui ont l'équivalent de 25% du patrimoine français, donc qui n'ont pas vraiment besoin qu'on leur baisse les impôts. Si pour le même montant, vous dites, au lieu de baisser les impôts des 1% les plus riches, je vais investir 4 milliards dans l'hôpital, c'est-à-dire créer 100 000 postes de fonctionnaires avec 4 milliards. Ben là, on va vous dire, ça va être compliqué, est-ce qu'on en a besoin ou je ne sais pas. Donc là, on voit très bien que l'économie est un choix. Soit vous baissez l'impôt sur les plus riches, soit vous faites 70 milliards de baisse d'impôt comme l'a fait Emmanuel Macron, ce qui fait quand même 50% du déficit aujourd'hui, soit vous décidez de mettre l'argent ailleurs. L'économie reste quand même un choix politique, effectivement un rapport de force, parce que les choix peuvent être faits aux dépens d'autres.
Pour poursuivre un peu dans la même veine et avancer un petit peu, il y a Céline sur WhatsApp qui dit ceci, que les politiques économiques à l'échelle des États sont encore efficaces face aux multinationales, Dominique Seux?
Alors c'est une vraie question. Des multinationales, notamment américaines, mais pas seulement, surtout américaines, qui ont un chiffre d'affaires nettement supérieur à celui des PIB, du produit intérieur brut d'un certain nombre d'États, et qui ont une puissance de feu. D'ailleurs, quand on pense aux GAFAM, les fameuses Google, Amazon, Apple, etc., sont présentes dans des pays et on voit bien qu'ils influencent, elles influencent, pensez au réseau X, Elon Musk de manière générale, elles influencent ce que pensent les opinions publiques.
Bien
et
sûr.
Donc, c'est une influence absolument considérable. Et on voit bien en ce moment qu'aux États-Unis est en train s'installer un régime véritablement plutocrate.
Ouais.
C'est-à-dire où les intérêts publics et privés sont totalement mélangés. D'ailleurs, je repense à la question de Lucas à l'instant. Il évoquait les rapports de force et les rapports de force politique et la géo et l'économie. Ben, c'est exactement ce qui se passe au Groenland en ce moment. Les droits de douane, la politique commerciale est utilisée comme un levier dans une crise géopolitique. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire. mais ça n'est jamais arrivé entre pays du même bloc, amis occidental. C'est arrivé pour forcer l'Afrique du Sud à changer de régime il y a maintenant une grosse vingtaine d'années. Les sanctions contre l'Iran, Donald Trump, il y a au début, quand il est arrivé contre le Brésil, mais dans le même bloc, j'allais dire occidental, c'est la première fois que ça arrive. Donc, si la question de Lucas, c'est l'économie n'est pas pure, elle est influencée par des rapports de force, oui, c'est une évidence. Ouais. Est-ce que l'économie, c'est la partie de la question que j'ai bien aimée de Lucas, est-ce que l'économie, les règles économiques nous empêchent d'être utopiques? C'est la grande question. Est-ce que, enfin, c'est une grande question. Est-ce que l'économie est là pour rappeler la réalité ou elle est parfois, un peu là pour fabriquer du rêve? Évidemment, on aimerait tous fabriquer du rêve, mais il faut trouver un mi-chemin entre les deux.
Il y a beaucoup de questions. Il y a celle de Robert, par exemple, sur WhatsApp, qui dit, question toute simple, pourquoi qualifier de science économique une discipline qui n'a rien de scientifique? Y a-t-il un bout de science dans les sciences éco, Thomas Porcher, ou pas?
Oui, mais ce n'est pas une science dure.
C'est un film.
C'est une science humaine. Voilà, c'est pas une science cumulative où on trouve des choses et ça évolue. L'économie a fonctionné différemment entre 1950 et 1970 que comme elle fonctionne aujourd'hui, mais également les moyens de réussir en économie sont différents quand on regarde ce que nous avons suivi, ce qu'a suivi les États-Unis ou ce qu'a suivi la Chine aujourd'hui, avec un régime non démocratique, un seul parti, mais avec des résultats économiques assez impressionnants. Donc vous voyez, il y a plusieurs formes en économie, il y a plusieurs avenirs possibles. Et en fait, il faut en débattre sur un pied, il faut débattre de ces avenirs sur un pied d'égalité pour que les choix démocratiques se fassent de manière éclairée. C'est ça qui est important.
Une réponse humoristique.
Je vous en prie.
L'économie a été inventée, dit-on, pour rendre crédibles les météorologistes, les météorologues. Voilà, bon. Au-delà, il y a quand même un certain nombre de règles économiques qui existent. On ne peut pas dire que tout est mou. Vous augmentez la masse monétaire, vous avez de l'inflation. Vous augmentez les revenus, vous avez plus de demandes et de consommation. Vous relevez les droits de douane, généralement, ça se passe pas très bien. Donc, vous augmentez la concurrence, et ben, vous avez quand même de l'innovation et des meilleurs produits qui sortent. Donc, ce sont quand même des choses qui sont, j'allais dire,
Je ne suis pas d'accord avec deux arguments déjà sur... Ce n'est pas forcément parce qu'il y a de la concurrence qu'il y a de l'innovation. Encore une fois, nous avons beaucoup plus innové quand l'État, enfin vraiment, il faut regarder ce qu'il y a dans les smartphones, hein, et c'est toujours l'État qui a investi en amont avant que ce soit repris par des entrepreneurs.
Non, mais vous en êtes encore à l'iPhone.
Non, mais oui, et puis sur la masse monétaire, on a mis énormément d'argent dans le système pendant des années. Les prix n'ont
alors
pas forcément augmenté.
Alors c'est un bon point pour vous, effectivement.
Donc c'est ce qui ça dépend de plein de contextes.
Généralement, c'est ce qui se passe. Ouais, ça n'est pas ce qui s'est passé pendant la crise du Covid et même après la crise financière. Ouais. C'est vrai.
Didier nous attend. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à vous tous. Débat toujours sympa.
Bonsoir Didier.
J'écoute Inter depuis longtemps. Simplement, messieurs le monsieur le journaliste économique et monsieur l'économiste, une question très, très simple. Nous avons, j'ai analysé l'économie réelle, donc nous avions des actions, nous avions des investisseurs, nous avions des productions. Après 68, si je ne m'abuse, on a séparé, pas 68, un peu plus tard, mais peu importe, on a séparé l'activité de dépôt et l'activité financière. Donc on est rentré dans un marché financier qui aujourd'hui a un rôle plus important parfois que l'économie réelle. Et par ailleurs maintenant, on en arrive aux start-up avec des effets de bulle et on arrive à des monnaies virtuelles type Bitcoin et consorts. Donc je m'interroge où se retrouve l'économie réelle dans tout cet environnement un peu compliqué.
En voilà une belle question, Didier. Merci beaucoup. Où est l'économie réelle, Thomas Porcher?
Didier a entièrement raison. C'est-à-dire qu'il nous a très bien montré comme un choix politique a changé les choses. Il y a eu effectivement une financiarisation de l'économie avec des règles on n'a plus séparé l'activité réelle de l'activité financière et où dans certains pays comme les États-Unis l'activité financière a drainé la croissance sans qu'une grosse partie de la population n'en voit quelque chose. Et aujourd'hui on voit bien qu'il va y avoir des entreprises qui vont surperformer et qui vont en même temps se séparer d'usines. Et donc, dans l'économie réelle, les gens ne vont pas avoir la surperformance financière. Donc, il a raison de dire que des choix politiques ont amené à une dichotomie que nous avons vue dans la crise de 2008, une dichotomie entre ce qui se passe dans l'économie réelle et parfois les valeurs qu'on peut avoir actionnariales.
Non, alors, une phrase. Les bulles, il y en a toujours eu. La première bulle la plus connue, c'est évidemment entre 1630 et 1637, les tulipes des Pays-Bas. C'est archi connu. Des bulles, il y en a à peu près tout le temps.
Mais du coup, il y a une bulle IA, Dominique Seux. Est-ce qu'elle est à deux doigts d'exploser, la bulle de l'IA, ou pas? Est-ce que c'est une bulle, d'ailleurs? Est-ce que c'est une bulle ou pas,
l'IA, aujourd'hui? Oui, c'est une bulle. Okay. C'est absolument une bulle, mais on ne sait pas quand elle va exploser. Ce qui tire la croissance américaine aujourd'hui, c'est
ça. Vous ne savez pas quand elle va exploser, pas si elle va exploser, mais quand elle va exploser.
Elle explosera. Mais pour l'instant, en fait, les investissements dans l'intelligence artificielle tire la croissance américaine. Alors, c'est ennuyeux pour l'économie américaine qu'il n'y ait que cela qui tire l'économie américaine, mais ça donne une avance aux entreprises américaines dans ce domaine-là qui est phénoménal et irrattrapable pour les Européens, en tout cas. Les Chinois tiennent la rampe, mais pour les Européens, c'est très difficile.
Mais vous voyez, on a typiquement là un débat qui est intéressant. En plus, on le traite dans les vies, un chapitre sur l'IA, c'est-à-dire que nous sommes d'accord sur le fait, alors là, nous sommes d'accord tous les deux sur le fait qu'il va y avoir une bulle qui risque d'exploser. On ne sait pas quand, mais on est quasiment sûr qu'elle va exploser. Après, est-ce que l'IA va pénétrer dans nos vies? Nous sommes d'accord, elle va pénétrer. Mais est-ce qu'elle va avoir un impact économique? Nous ne sommes pas du tout d'accord là-dessus. Je pense que l'impact économique va être pas aussi élevé que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Dominique pense que ça va être un bouleversement beaucoup plus important. Donc là, on voit bien le cheminement. Vous voyez, il y a deux étapes, nous sommes d'accord, mais la troisième, nous ne sommes pas d'accord.
Parce que Thomas pense que Internet n'a pas changé grand-chose à l'économie, ce qui me laisse généralement un peu sans voix.
Oui. Dans les chiffres de la productivité.
Et donc, il en tire la conclusion que sur l'intelligence artificielle, ça va nous refaire la même chose. On ne sait pas très bien comment ça va évoluer, mais ça change déjà. Je peux déjà vous parler de personnes que je connais qui s'inquiètent dans les activités de conseil, par exemple, aujourd'hui, qui se demandent vraiment de quoi sera fait leur métier dans 5 ans.
Le vrai problème de l'IA aujourd'hui, on l'a traité, nous, à plusieurs reprises, c'est qu'on se parle aujourd'hui, on est quel jour? On est le 19 janvier. Si ça se trouve, le 19 février, quelque chose va être inventé qu'on ne connaît déjà pas aujourd'hui. Enfin, c'est aussi cette rapidité-là qui est à la fois fascinante, mais aussi très effrayante, non, Thomas Porcher, et qui peut, d'un claquement de doigts, bouleverser également l'économie, ou pas?
Moi, je pense qu'on va en revenir, mais comme on revient déjà sur les écrans, sur les réseaux sociaux, au début, c'était génial, tout ça devait nous apporter liberté, bonheur. Je veux dire, à un moment, vous voulez même donner, je crois, le prix Nobel de la paix à Facebook pour les révolutions arabes. Ouais. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de complotistes, les discussions ne sont pas aussi sympathiques qu'on ne le pensait.
C'est le moins qu'on puisse dire,
ouais. Et on en revient, on se dit maintenant qu'il faut arrêter d'aller sur les écrans, qu'il faut ouvrir des livres, etc. Et moi, je pense que dans l'IA, quand les gens ne sauront même plus écrire un mail et aligner 3 phrases, on dira, peut-être qu'on a été un peu trop loin, il faut faire attention.
Je pense qu'il y a deux sujets différents que mon ami Thomas mélange un tout petit peu. Il y a le sujet « Est-ce que ça change quelque chose ?» Et la réponse est oui. Et il y a le sujet « Est-ce que c'est bien ou mal ?» C'est une autre question. Bien sûr qu'il y a du bien et du mal. Le bien, c'est que tous les laboratoires pharmaceutiques disent que l'IA est en train de révolutionner la façon dont on va trouver des médicaments. Ouais, voilà, ça c'est très concret.
IA générative ou pas, il est là le débat en fait. Alors, c'est aussi ça qui vous sépare.
Comment en fait, l'IA existe depuis beaucoup plus longtemps que l'IA générative.
Exactement.
Bien avant ChatGPT, il y avait dans toutes les entreprises industrielles de l'IA. Est-ce que ça va changer? Oui, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Voilà.
Là, on
est d'accord.
Bravo.
La conclusion vraiment, d'un débat d'une demi-heure.
Vraiment, bravo. Marie est là. Bonsoir, Marie.
Bonsoir.
On vous écoute, Marie.
Oui, bonsoir. Voilà, je voulais intervenir par rapport au dire de vos deux intervenants. Qu'en est-il, selon vous, du mythe du ruissellement qu'on nous fait miroiter depuis des décennies? On verse des milliards aux ultra-riches, milliards qui dorment dans les poches de Bolloré, etc. Et plutôt que de retomber, du coup, au peuple français, donc que pensez-vous de ce mythe du ruissellement qu'on nous vend pour continuer ainsi? Et du mythe de la croissance comme panacée pour notre société, parce que je vous entendais au départ, et vous voyez que la croissance, comme solution. Alors oui, si on est ultra riche et qu'on veut garder un patrimoine fort, oui, mais quand on est un Français moyen, la croissance c'est pas forcément la solution. Un PIB c'est pas témoignant du bonheur des Français.
Merci voilà. Marie, pardon de vous interrompre, mais comme le temps tourne et que la question est longue, alors sur la croissance, on a un peu évoqué en début d'émission, j'avais même le sentiment que vous étiez assez d'accord finalement l'un l'autre sur le fait que la croissance à un moment...
On n'aurait jamais eu une classe moyenne sans une croissance à 7% pendant les 30 Glorieuses. Il faut revoir la vie avant les 30 Glorieuses pour se rendre compte ce qu'était la vie de la classe moyenne. Vraiment, c'est important d'avoir ça en tête.
La théorie du ruissellement, alors finalement. Est-ce une théorie? Est-ce qu'un jour ça a marché, le fameux ruissellement qui a été inventé, je ne sais pas par qui d'ailleurs.
Ça marche depuis très longtemps. Ouais. Après, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y en a trop? Je ne suis pas... Pardon Marie, mais personne ne verse, on ne verse pas d'argent à Vincent Bolloré, Bernard Arnault et autres. Leur richesse, c'est la valeur des actions des entreprises qu'ils ont créées ou dont ils ont hérité. Donc personne ne... On ne prend pas de l'argent à monsieur et madame Smith aux États-Unis ou monsieur et madame Durand en France pour aller dans les poches des personnes les plus riches.
Mais la théorie, c'était de dire si...
On baisse les impôts.
Exactement, on baisse les impôts des plus riches. Et donc, au nom du ruissellement, ça retombera forcément sur les classes moyennes et sur les plus pauvres. Alors, est-ce que cette théorie, révèle
Non, mais en une phrase, les impôts des plus riches ont été baissés. L'ISF a été supprimé en 2017 à hauteur de 4 milliards d'euros. C'est par rapport au déficit que avons actuellement, c'est absolument, ça n'est pas du tout le sujet. Ce que je note, moi, c'est que dans les années précédentes, il y avait ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des start-up qui partaient aux États-Unis tous les jours. À ma connaissance, depuis 2017, elles sont toutes restées en France.
Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'économie a été, je veux dire, là où l'économie a été la meilleure pour les classes moyennes, c'est au moment où il y avait un impôt sur les sociétés à 50%. Et ça se passait très bien. Il y avait même parfois un taux marginal très élevé d'imposition. Aux États-Unis, il est monté à plus de 80%. C'est-à-dire que, à ce moment-là, on a eu une économie où la classe moyenne, même la majorité des gens, se sont enrichis plus vite que les 1% les plus riches, qui se sont enrichis quand même. Mmh. Alors que là, nous avons depuis les années 80 l'inverse. Les 1% les plus riches s'enrichissent plus vite que le reste de la population. Et là, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que cette croissance sert plus les 1% que le reste de la population.
Non,
et ça, c'est pas acceptable pour moi.
Pourquoi ils s'enrichissent plus vite? Parce qu'ils dirigent des entreprises mondiales, ce qui n'existait pas en réalité il y a 50 ou 30 ans, des entreprises qui ont des marchés dans le monde entier, et donc, en fait, il y a une demande pour leurs actions qui les enrichit. Sur... je sais plus ce que je voulais dire.
Ah bah écoutez, oui. C'est pas grave, mais vraiment, Dominique, parce qu'il nous reste une minute, ça nous laisse 30 secondes pour chacun, le sujet économique de la campagne 2027, c'est quoi? Est-ce que c'est retour sur les retraites? Est-ce que c'est à nouveau... Alors, budget, évidemment, est-ce que c'est à nouveau la dette? C'est quoi le sujet qui va nous diviser, nous faire débattre les uns les autres en 2027, à votre avis?
Je dirais qu'il y en a une cinquantaine qui se trouvent dans le livre, okay. Parce qu'on a écrit aussi le livre pour ça, on l'a sélectionné, mais la dette, ça va être obligatoire, le rythme de réduction des déficits obligatoire, l'investissement dans les services publics obligatoire, la question de l'innovation IA obligatoire, la question des retraites obligatoire, et je dirais même d'autres services publics type la dépendance, puisque le pays va vieillir, obligatoire, la recherche et développement obligatoire. Donc il va y avoir vraiment, je pense, là, il va falloir trancher, et ça va être une campagne, à mon avis, très animée, 2027.
Dominique,
en une phrase, le sujet de 2027 qui devrait être important, c'est le sujet qui redonnerait confiance aux Français dans leur avenir et qui permettrait qu'on ait plus de créativité. Nous avons du mal à nous rassembler autour d'une valeur commune en économie. Et je pense que la valeur commune que nous devons trouver, c'est la créativité. Regardez, repensez à la cérémonie d'ouverture des JO. Mm-hmm. Je crois que le monde entier s'est dit, les Français... C'est quand même pas mal, et c'est ça que nous devrions porter en 2027. D'accord. Je suis presque candidat, tiens.
Ah bah écoutez, votez Dominique. Dominique Thomas Porcher, merci beaucoup. Ça s'appelle Les débats de l'écho chez Plon et France Inter. Et puis bien sûr, à vendredi,
merci à vous.
7h45. Merci à tous.